La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Et au menu de notre club cet après-midi, les doctorants du CRU 2018 de ma thèse en 180 secondes, la planète bleue de la BBC qui arrive en prime demain sur France 2 et une exposition sur le feu à voir à la Cité des Sciences. Je vous présente mes invités, ils sont là nombreux dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, la mécanique du printemps chez les arbres.
Oui, grâce à une étude suédoise, on en sait un peu plus sur la science de l'ouverture des bourgeons. Ça s'appelle le débourrage et on en discute avec l'écologue Xavier Moreau.
Fanny Bouillon réalise ce club qui a été préparé aujourd'hui par Thomas Lehété avec Anna Massardier.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Et je salue les invités de notre club qui sont avec moi en studio. Catherine Alvarez pour l'unité documentaire de France 2, Julia Massiel et Christelle Guiraud pour cette exposition sur le feu à la Cité des Sciences, et Colin Gatouilla et Camilla Lima des Medeiros, les finalistes de ma thèse en 180 secondes. Bonjour à tous les cinq, bienvenue.
Bonjour.
Et on accueille également en duplex de Marseille, Denis Audi pour le WWF. Bonjour à vous.
Bonjour.
Colin Gatouilla et Camilla Lima des Medeiros, on va faire connaissance avec vous dans un instant puisque vous faites partie des 16 finalistes qui iront donc à Toulouse le 13 juin prochain, défendre donc en 3 minutes votre sujet de thèse à l'occasion donc de cette finale nationale de ma thèse en 180 secondes. Quel est le sujet avec lequel vous allez devoir séduire le public, Camilla, peut-être pour commencer?
Je travaille sur l'exil féminin en littérature.
Mmh. Et Colin ?
Moi, je travaille sur les raisons pour lesquelles les adolescents abandonnent la pratique sportive.
Bien, on va en discuter donc ensemble. On va découvrir également votre parcours. Et puis, tous les vendredis, à partir d'aujourd'hui, nous aurons donc 8 semaines pour découvrir tous les lauréats de cette finale nationale. France Inter étant partenaire de MT 180. Catherine Alvarez, demain soir, France 2 diffuse le premier des 2 primes de la BBC Planète Bleue. Soirée habituellement consacrée au divertissement. Vous faites le pari du documentaire nature donc le samedi soir.
Absolument, ouais. Grand défi pour nous qui démarre demain. Oui, demain samedi et puis pour le samedi d'après aussi. Ouais. Grande soirée naturaliste mais spectaculaire.
Ouais, avec la voix de François Morel.
Absolument. Hein,
c'est lui qui fait prête sa voix à ces 2 films de 90 minutes qui rappellent à la fois la beauté et la fragilité des écosystèmes marins. Denis Audi, justement, vous travaillez pour le WWF. Est-ce que tous les océans du globe sont en danger aujourd'hui? Denis Audi, est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Ah, il n'est pas avec nous. Eh bien, on va le retrouver dans un instant. Allez, on terminera ce sujet avec la Cité des Sciences, puisque nous avons cette exposition sur le feu. On va en discuter avec vous, Julia Massiel et Christelle Guiraud. Vous en êtes les commissaires. C'est une drôle d'histoire, d'ailleurs, qui est à l'origine de cette exposition, Christelle Guiraud.
Oui, en fait, nous avons subi un incendie en août 2015. Et pour aller vite, ça nous a donné l'idée de faire une exposition sur le thème du feu.
Voilà, Julia Massiel, histoire et science, donc, entre autres, pour découvrir tous les aspects autour du feu. Hein, c'est très large.
On a décidé de prendre le feu au sens large du terme. Mmh. Et donc, on va de l'anthropologie, de la physique-chimie, voilà, à la science des pompiers, ouais. Technique des pompiers.
On fera le tour de l'expo avec vous et on a jusqu'au mois de janvier pour aller la découvrir à la Cité des Sciences. Et puis, les auditeurs nous rejoignent, bien sûr, avec les messages. Et toutes les questions sur le site de La Tête au Carré. Les arbres qui mesurent la durée des jours pour savoir quand ouvrir leurs bourgeons, c'est le printemps qui est à la une aujourd'hui de la science. Voilà, le Big Bazar et le printemps pour savoir justement comment les bourgeons du hêtre, par exemple, Axel, s'ouvrent fin avril et pas début mai ou fin mars. Par quel mécanisme un arbre parvient à identifier le bon moment pour reprendre sa croissance? C'est une étude suédoise parue cette semaine dans la revue Science qui s'intéresse donc à l'influence de la durée des jours sur les arbres et qui démontre que la température n'est pas le seul facteur qui entre en jeu.
Et on en discute avec notre invité depuis les locaux de France Bleu à Montpellier. Il s'appelle Xavier Morin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur pour le CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Alors Mathieu l'a dit, c'est le grand chambardement dans les forêts au printemps. Expliquez-nous un peu ce qui se passe au printemps.
Alors, ce qui se passe au printemps, en fait, ce qu'on sait le plus, c'est que il y a une reprise de l'activité des bourgeons. Mmh. Bourgeons qui en fait comportent des, notamment par exemple pour les bourgeons foliaires, les feuilles préformées. Et donc sous l'action, c'est justement ce qui est débattu, de la température et de la durée du jour, eh bien l'activité cellulaire reprend dans ces bourgeons jusqu'à donc l'éclatement du bourgeon et donc ce qu'on appelle le débourrement du bourgeon, et pas le débourrage, et donc l'apparition des feuilles.
Mais les bourgeons ne se forment pas au printemps, alors ça c'est une erreur que peut-être certains font.
Et oui, donc les bourgeons se forment avec une certaine variabilité selon les espèces d'arbres, mais donc plutôt à l'automne, sous nos latitudes. Et justement, c'est ce que cette étude, en fait le principal résultat de l'étude que vous mentionnez, là, publiée cette semaine dans Science, c'est justement de mettre en évidence comment les mécanismes, en fait, liés notamment à la durée du jour, la baisse de la durée du jour, comment est-ce que donc cette baisse est perçue par l'arbre, mmh, pour ensuite donc mettre en place des bourgeons préformés et induire l'entrée en dormance de ces bourgeons.
Mais ça, on l'ignorait jusqu'à maintenant, Xavier Morin?
Alors, on n'ignorait pas totalement. Là, ce qui est vraiment nouveau, c'est que les chercheurs ont pu mettre en évidence que le signal de la baisse de la durée du jour avait en fait induisé deux mécanismes qui pouvaient être séparés donc au laboratoire.
C'est le bourgeon ou c'est l'arbre qui mesure la durée du jour ou qui mesure la température?
Alors là, c'est une question un petit peu compliquée, le plus souvent, on pense que les choses sont perçues à l'échelle du bourgeon, mmh, mais il y a quand même des choses qui se passent, sinon à l'échelle de l'arbre, du moins à l'échelle, par exemple, de la branche, puisqu'il y a l'action de ce qu'on appelle des hormones végétales. Et par exemple, pour la mise en place des bourgeons, notamment l'acide abscissique, là, qui est, dont le rôle est mis en évidence dans l'étude. Là il y a un peu une interaction rétablir une interaction entre la branche et le bourgeon.
Alors finalement, comment se fait ce choix entre la température et la durée du jour pour savoir quel est le bon moment?
Alors ça, c'est une très bonne question, c'est justement ce qui est débattu. Pour ce qui est donc de l'entrée en dormance, donc à l'automne, la cessation d'activité de croissance des arbres, donc d'activité cellulaire dans les bourgeons. Ça serait vraiment une interaction entre la durée du jour et la température. Et ce que cette étude, sur une espèce, encore une fois, montre, là c'est sur une espèce de peuplier, montre que l'action prépondérante pour cette espèce de la baisse de la durée du jour. Mmh. Par contre, pour ce qui se passe en ce moment dans nos arbres, que ce soit en ville ou en forêt, la reprise d'activité des bourgeons qui a déjà mené pour certaines espèces donc à l'éclatement du bourgeon et avec l'apparition des feuilles, l'action de la température est généralement reconnue comme prépondérante, avec encore une fois des pincettes, dépendamment des espèces. Vous mentionnez le hêtre tout à l'heure, c'est une des rares espèces pour l'instant pour lesquels, en Europe, on a mis en évidence quand même une importance du signal de l'augmentation de la durée du jour au printemps.
Allez, une dernière question, Axel.
Oui, mais si la température est importante, ça veut dire que le réchauffement climatique va faire changer la date de débourrement des arbres, alors?
Ah ben exactement, en fait c'est même le cas depuis qu'on a qu'on documente la date d'apparition des feuilles et donc d'éclatement des bourgeons. Donc il faut savoir que depuis le siècle dernier, on va dire depuis 1950, en moyenne, les arbres en Europe ont connu un avancement, une plus grande précocité de cette apparition des feuilles, d'à peu près 3 jours par semaine. Ouais. Ce qui est, je m'emporte, 3 jours par décennie.
Ah oui, quand même.
Ce qui veut dire en fait 3 semaines à peu près, depuis 1950. Ce qui est en fait particulièrement drastique.
Est-ce qu'on va se servir de ce genre de résultats pour faire évoluer les forêts ou pour les gérer différemment? Ce sera ma dernière question.
Bah, c'est plutôt, généralement, ce qui préoccupe les forestiers en ce moment, c'est comment pérenniser tous les services que rendent la forêt Et notamment, donc, se pose la question d'avoir, en fait, au niveau local, des populations ou des espèces d'arbres qui soient le mieux adaptées aux conditions ou aux futures conditions. Et donc, il y a actuellement tout un débat sur est-ce qu'il faut favoriser la migration, voire par la plantation, d'espèces mieux adaptées, par exemple, au niveau de leur phénologie, donc de leur débourrement, par exemple. Donc, est-ce qu'il faut favoriser ça ou plutôt miser sur la résilience des forêts et leur adaptation intrinsèque?
En tout cas, ces études, comme celles de Science, peuvent aider justement à répondre à ces questions. Merci beaucoup, Xavier Morin. Vous êtes donc chercheur pour le CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle évolutive. Et vous étiez en duplex de France Bleu à Montpellier. Merci beaucoup et Axel, à très bientôt.
À bientôt.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le vaccin antigrippal de moins en moins efficace. Les chercheurs en biochimie de l'université de Rice aux États-Unis prédisent qu'en 2018, l'efficacité du vaccin contre la grippe serait seulement d'environ 20%. La méthode de production du vaccin serait en cause. Elle consiste à cultiver les virus dans des centaines de millions d'œufs de poules, ce qui à travers les années a fait baisser le taux d'efficacité. Une production à partir de cellules d'insectes pourrait bien prendre le relais. La grande barrière de corail australienne plus que jamais en péril. Une étude publiée dans la revue Nature rapporte que 30% des coraux sont morts durant la vague de chaleur de 2016. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981, eh bien, les canicules marines consécutives ont blanchi cette barrière, ce récif qui constitue le plus vaste ensemble corallien du monde. Les récifs recouvrent moins de 0,2% de la surface des océans, mais ils abritent 30% des espèces animales et végétales marines, les protégeant entre autres des prédateurs et leurs servant de garde-manger. Et puis, fidèle compagnon de l'homme jusque dans ses entrailles, selon une étude publiée dans le journal Microbiome, les chiens pourraient être de bons modèles d'analyse dans les études nutritionnelles. En effet, les chercheurs ont constaté que des modifications dans l'alimentation avaient des effets similaires sur le microbiote des chiens et des humains. Comme nous, les populations canines subissent des problèmes croissants d'obésité en lien avec leur alimentation. Ces études permettraient d'en savoir plus sur les régimes nutritionnels à adopter pour lutter contre cette maladie. Allez, le club dans un instant.
Dans de nombreux bras, de nombreuses fleurs,
j'ai vu par les yeux de mes sœurs.
Là-bas, que vois-tu venir dans l'ombre?
Aujourd'hui ton corps et demain le monde.
Souviens-toi du jour où le rêve est mort, moi.
Piégé dans la nuit, j'en rêve encore.
J'ai lu l'avenir du monde dans ton regard.
Je jure sur la tête de Robert Ménard.
Un jour s'est levé, t'as jamais rappelé. Je me demande encore ce que Jésus aurait fait. Peut-être que tu savais très bien où t'allais. Toi et l'engin et l'aveugle à ses pieds. T'inquiète pas pour moi, je t'ai vu en rêve. J'ai eu tout ce que j'ai voulu, tout ce qui aurait pu être. Aujourd'hui comme hier, une vie passée à perdre. Souviens-toi Michniak, tous les disques sont de la merde.
Dans de nombreux bras, de nombreuses fleurs, j'ai vu par les yeux de mes sœurs. Là-bas que vois-tu venir dans l'ombre? Aujourd'hui ton corps et demain le monde. Dans de nombreuses voix, de nombreux cœurs, j'ai vu sur la vie de mes sœurs. J'ai lu l'avenir du monde dans ton regard. Je jure sur la tête de Robert Ménard.
J'ai pas peur de mourir comme Pharaon. Le corps, la figure enfouie dans les ronces. J'ai passé ma vie à entrer dans un rêve. Mais toi enfant, tout ce que tu verras est vrai. Toutes les nuits je revis le commencement. Mais aujourd'hui avec toi j'y suis vraiment. Montre-moi ce qui se cache derrière les pétales. Conduis-moi dans le tunnel végétal. Dalila dans les yeux crevés du Nazir. Piégé à jamais l'image de ton sourire. En lui ôtant la vue tu levais le voile. Qui vous départageait le rêve et toi. Souviens-toi du jour où le rêve est mort, moi. Piégé dans la nuit j'en rêve encore. J'ai vu l'avenir du monde dans ton regard. Je jure sur la tête de Robert Ménard.
J'ai lu l'avenir du monde dans ton regard. J'te jure, parle-moi du paysage. Tu vois sous mon visage, à la lumière du dehors qui filtre sur ton lit. Parle-moi du chaud et froid entre ma peau et tes draps. Et ton ivresse et mon corps, et toi et moi et la mort. Parle-moi de l'instant, l'instant où tu oublies tout. À part de scander ton souffle dans le creux de mon cou. Parle-moi du moment où t'es plus rien que de la lave et du sang qui coule entre mes reins. Parle-moi de nombreux bras,
La vie de mes sœurs, c'était Thousand sur France Inter et vous êtes dans le club de la tête au carré cet après-midi avec au sommaire les doctorants du concours Ma thèse en 180 secondes, deux primes sur France 2 autour des océans et une exposition sur le feu.
C'est parti.
La tête au carré, Ma thèse en 180 secondes sur France Inter.
À toi. Et c'est parti pour la finale nationale 2018 de MT 180 qui aura lieu donc mercredi 13 juin au Théâtre National de Toulouse. Ils sont 16 finalistes sur la ligne de départ et ils vont présenter leur sujet de thèse face au public pendant 3 minutes seulement. Ça c'est la règle, concours organisé comme chaque année par la CPU, la conférence des présidents d'université et le CNRS. Et tous les vendredis jusqu'au 13 juin, vous allez donc découvrir deux finalistes dans la tête au carré puisque France Inter est partenaire de ce concours. Et c'est vous, Colin Gatouya et Camilla Lima de Medeiros, qui essuyez les plâtres cet après-midi au micro, l'occasion de faire connaissance avec vous et de découvrir vos thèmes de recherche. Vous représentez tous les deux l'université Aix-Marseille-Provence-Méditerranée, hein, c'est bien ça. Oui. Bienvenue donc à Paris pour cette première antenne en direct pour vous. Ça change un petit peu, mais vous avez quand même eu l'habitude pour le coup du public, puisqu'il y a eu la finale régionale, Camilla Lima de Medeiros, hein, c'est ça?
Oui, nous avons eu la finale régionale à Marseille. Mmh. Et c'était aussi c'était la demi-finale et la finale régionale le même jour.
Ouais. Est-ce que c'était la première fois que vous étiez confronté à un public comme ça pour parler de vos recherches?
C'était la première fois.
Ouais.
Je suis déjà allée à des colloques, mais avec un tout petit groupe. Et c'était différent. Il n'y avait pas la scène, pas cette ambiance de présentation, de show, de science.
Et comment ça s'est passé alors, Colin, pour vous premier contact avec le public?
C'est vrai que la demi-finale et la finale régionale étaient assez agréables parce qu'on partage ce qu'on fait avec passion, on y met de l'engagement et on a eu des bons retours, donc c'est vrai que c'est très agréable. Puis surtout l'ambiance avec les autres candidats est vraiment excellente, donc c'est vraiment un chouette moment à passer.
En tout cas, bravo déjà d'être arrivé à ce stade de la compétition. C'est Sophia Aram d'ailleurs qui est la marraine de cette année pour MT 180. Sophia, que vous avez rencontré d'ailleurs avec les autres finalistes puisque vous avez été invité à deux journées intenses organisées par le CNRS et la CPU, qui consistaient en quoi finalement? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces deux journées? On vous a briefé pour apprendre encore mieux à affronter le public, c'était ça?
Oui, donc nous avons fait un atelier sur... on a fait des ateliers sur la presse. On a fait un atelier avec Sophia Aram sur la présentation, comment se poser en scène.
Ouais.
Et un dernier atelier, c'était sur la presse entre MT 180.
Comment réussir à faire fructuer un petit peu cette petite visibilité qu'on peut avoir. Mais c'était aussi et surtout l'occasion de la demi-finale nationale, puisqu'il y avait 56 candidats.
C'est ça, il fallait les crémer déjà.
Une grosse partie. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a donné envie tous les deux de participer au concours justement? Vous en aviez entendu parler à quel moment, Colin?
Alors moi, j'étais allé voir la finale régionale l'an dernier à Marseille parce que j'avais notamment des collègues doctorants qui participaient. Et dès que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très chouette et donc je me suis dit qu'il fallait que je tente l'aventure l'année suivante.
Bon, ça vous a chatouillé aussi de pouvoir à votre tour aller sur scène. Et pour vous, Camilla?
Moi, j'avais envie de communiquer un peu un point de vue littéraire sur un sujet social. Je me suis dit, c'est dommage de garder ce sujet dans les murs de l'université.
Ouais. Et vous avez bien raison. C'est une très bonne initiative en tous les cas. Vous qui êtes au Centre interdisciplinaire d'études des littératures d'Aix-Marseille, hein, c'est ça?
C'est ça.
Et Colin, vous êtes à l'Institut des sciences du mouvement Étienne-Jules Marais. On va commencer justement avec vous, Colin Gatouya. On va écouter un extrait de votre présentation, puisque ça a déjà été enregistré, puisque vous avez participé au final régional, autour de ce sujet qui concerne le sport. Vous êtes sur scène, voici ce qui s'est passé.
J'arrête le sport, j'ai pas le temps avec ma thèse. Pourtant, je sais que c'est bon pour ma santé, à la fois pour mon bien-être physique, mais également mental et social. Ok, ça vous le savez certainement tous, mais il y a également des preuves scientifiques. Ces dernières années, les campagnes successives de promotion de la santé n'ont pas empêché la baisse globale de la pratique physique et sportive. Et quelle population est particulièrement concernée par l'abandon de la pratique sportive? Les adolescents. L'objectif de ma thèse est donc très simple. Essayez de comprendre, d'un point de vue sociologique, Pourquoi les ados sont des grosses feignasses ?
Voilà. Et ça parle à plein de gens autour de ce micro, n'est-ce pas, Catherine Alvarez ?
Oui, moi j'ai une ado, enfin deux ados d'ailleurs, ouais. Une pré-ado, une ado à la maison. J'ai l'impression qu'en tout cas pour les filles, je vais parler des filles, ça revient un peu le sport, notamment la boxe. Il y a toute une. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement en tous les cas de vouloir se bouger un peu pour les filles.
Et pourtant, c'est un peu le contraire que vous alors, le montrez oui, c'est, dans votre thèse, Colin Gatouilla.
Alors je vais répondre en deux temps déjà à mon texte que vous avez coupé, donc justement un moment où je stigmatisais peut-être un peu les adolescents. Si vous voulez voir comment je les valorise après,
voilà, bien sûr.
Je les valorise.
Ça, c'est le jeu du montage. Il faut être percutant. Hein.
Ils ont des choses très intéressantes à
dire. Absolument, on n'en doute pas.
Ensuite, pour répondre, c'est vrai que déjà, il faut bien avoir conscience que l'abandon de la pratique sportive, il est vraiment conditionné à la fois par le sexe, garçon-fille, la catégorie socio-professionnelle qui peut jouer aussi énormément, et des disparités régionales. C'est-à-dire que si on regarde les chiffres, notamment de l'INSEE ou d'autres études qui s'intéressent justement à la promotion de l'activité physique et sportive, on va voir qu'il y a plutôt une stagnation et dans certains cas des baisses.
Ouais.
Mais ça montre un échec relatif justement de... ces campagnes de promotion de l'activité physique et sportive.
Mais ça veut dire quoi ? Qu'on observe quand même globalement un abandon massif de la pratique sportive chez les ados, ou faut être plus mesuré que ça ?
Faut être, je pense, plus mesuré. Mm-hmm. Ça stagne et on a quand même au niveau régional certains abandons, un certain taux d'abandon. Et il faut aussi le regarder au regard justement de ce que vous disiez de certaines pratiques, c'est-à-dire qu'en fonction des régions, etc. À Marseille, par exemple, chez les filles, on a notamment un abandon assez important au niveau des activités aquatiques. Donc ça, on l'a vu avec notre équipe.
Ce qui est
équipe.
Un comble à Marseille, quand même. Oui, hein. On se dit que franchement, c'est l'endroit où on a envie de nager. Mais...
Alors c'est un comble, mais quand on regarde les chiffres, les rapports de la Cour des comptes, on se rend compte que les projets de développement des infrastructures liées notamment aux piscines n'ont pas été respectés et font qu'il y a peut-être beaucoup de piscines qui ont été fermées ou qui sont dans un état déplorable.
Voilà, donc Colin Gatouilla, ça c'est votre sujet, hein, vous avez posé vraiment le cadre de vos recherches, donc ce sont des recherches que vous menez, et puis vous êtes aussi professeur de sport hein.
Alors je suis professeur de PS agrégé, mais je n'ai pas d'élèves, c'est-à-dire que dans le cadre du monitorat thèse, j'ai des étudiants. En revanche, j'ai pas d'élèves encore. J'ai enchaîné tout de suite après l'agrégation, donc j'attendrai un petit peu avant d'avoir des élèves.
Ouais, alors on entendait là dans l'extrait, vous arrivez en courant, c'est ça, sur scène. Donc il fallait essayer de trouver des petites idées de mise en scène pour séduire le public là aussi.
Alors effectivement, le MT 180, le but c'est d'être percutant en 3 minutes.
Oui, oui.
Donc essayer à la fois d'avoir des artifices qui vont attirer l'œil, qui vont attirer l'oreille. Voilà, j'élève la voix par exemple sur les feignasses, ça peut surprendre. Mais également de pas tomber dans les artifices habituels, puisque c'est un exercice qui commence à être rodé. Il y a beaucoup de vidéos sur internet de MT 180 en France et ailleurs.
Eh ouais.
Et il y a des
c'est l'originalité qui va primer maintenant, peut-être.
C'est ça.
Hein,
ça devrait être ça.
Et c'est compliqué, sans tomber évidemment dans l'excès. Hein, c'est trouver la juste mesure. Alors Camila Lima de Medeiros, pardon. vous êtes brésilienne d'abord, on peut
oui,
peut-être
je suis
préciser.
Brésilienne.
Vous êtes en France depuis combien de temps ?
Ça fait 4 ans que j'habite en France.
Ouais.
J'ai migré et un an après, j'ai repris mes études, j'ai commencé le doctorat en littérature comparée.
Ouais. Alors, quel est votre sujet de thèse que vous allez résumer en 180 secondes le 13 juin à Toulouse ?
Alors, je travaille sur les récits littéraires de Marguerite Duras, Alejandra Pizarnik et Clarice Lispector, donc une auteure française, argentine et brésilienne, qui ont vécu l'expérience du déplacement, donc d'exil et de post-exil. C'est des auteurs qui sont nés pendant le déplacement de ses parents et qui se sont déplacés ensuite.
Est-ce que ça a été une difficulté pour vous de vous dire, tiens, comment je vais intéresser le public à ce sujet quand même assez grave et difficile ?
Oui. Bon, j'ai vu plein de vidéos avant et j'avais l'impression que l'humour plaisait plus.
Ouais.
Et ensuite, je me suis dit, mais je vais raconter juste une histoire.
Ouais.
C'est la caractéristique de ma discipline. Je vais rester fidèle à ça et... Je pense que ça a plu.
Ouais. Puisque vous avez déjà passé les premières étapes de sélection, effectivement, on va vous entendre justement dans cet extrait et on va bien comprendre justement le ton et le style qui est le vôtre là sur scène.
Je me suis demandé s'il était possible d'écrire un récit lorsqu'on est confronté au trauma. S'il était possible de rendre discible ce qui est plutôt de l'ordre de l'indicible. Peut-être vous aussi vous êtes déjà interrogé là-dessus. Quand face à une situation difficile, vous vous retrouvez à court de mots. C'est justement pour ça que j'ai décidé d'étudier les récits littéraires d'exil. Car la littérature accueille la complexité et les tensions des expériences humaines. Quand on lit Clarice Lispector, on lit son silence, ses hésitations, sa douleur.
Voilà, Camilla Lima de Medeiros. On entend aussi, vous, votre style hein, et votre voix, et ça, c'est très important. Et vous marquez aussi ces silences, ces pauses dans votre narration. Vous avez beaucoup réfléchi à ça ?
En fait, quand j'écris ce texte, au départ, je commence en racontant l'histoire de quelqu'un qui a vécu l'expérience de l'exil, mais qui, ce n'est pas une histoire, ça ne fait pas partie de mes auteurs. Et en fait, c'était l'histoire, c'est un peu un mélange d'histoires des personnes que j'ai connues, et ça me touchait particulièrement. Donc, je faisais des pauses, là où pour moi, c'était fort aussi.
Vous avez eu beaucoup de retours de votre entourage, des réactions justement sur votre première prestation, là, avant de vous embarquer pour la finale nationale ?
J'ai eu quelques retours, des formateurs qu'on a eu à Marseille, et je vais retravailler sur certaines choses, notamment pour continuer sur cette ambiance. À Paris, j'étais un peu plus pressée, et j'ai envie de revenir sur cette mise en scène un peu plus mélancolique qui j'ai fait à Marseille.
Ouais, pour instaurer un climat d'intimité qui va bien aussi avec votre sujet, hein, puisque
et d'empathie. Ouais. Surtout.
Ouais. Catherine Alvarez, est-ce que vous avez des conseils à donner à nos jeunes candidats avant d'affronter la scène, vous qui êtes une femme de télévision ?
Non, je trouve que ce qui est très frappant, en tous les cas, je découvre chacun, c'est que c'est absolument tellement différent l'un de l'autre, et ça, c'est voilà. Et j'encourage tout simplement à être ce que vous êtes. Voilà, c'est-à-dire que chacun, en effet, ça je dirais que c'est l'expérience vicariante pour vous et l'empathie que ça peut susciter. Vous, ça a tout de suite suscité sur le sport quelque chose de plus drôle. Voilà, donc je trouve que j'aime beaucoup ça, que chacun travaille ce qu'il est.
Christelle Guéraud.
Oui, moi j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais ado, notamment à l'école, au collège et au lycée. Et je voulais savoir comment le sport scolaire se portait aujourd'hui.
Alors le sport scolaire, il a plusieurs missions, notamment celui de donner le goût de la pratique sportive, effectivement. Vous donner des chiffres là tout de suite sur de l'UNSS, ça va être difficile pour moi, je suis désolé, mais en tout cas, je pense que sur le terrain, les professeurs de PS font en sorte justement de faire en sorte que les adolescents essaient un petit peu d'avoir ce goût de la pratique sportive et qu'ils le prolongent après, en dehors, à la sortie notamment de l'école, du collège ou du lycée.
Julia Massiel, un petit mot d'encouragement pour votre compatriote brésilienne, parce que le Brésil est bien représenté dans ce studio aujourd'hui, donc vous allez porter les couleurs du pays.
Tout à fait, et puis je vois qu'elle a choisi un sujet qui doit lui parler, même si peut-être c'est un exil choisi et pas un exil forcé, c'est quelque chose de très personnel aussi, et d'être loin des siens, je crois que toutes les deux on sait ce que c'est.
Et on pourra vous voir sur scène donc le 13 juin. On prend rendez-vous, hein. Ce sera donc à Toulouse, au Théâtre National, pour cette finale de Ma thèse en 180 secondes. Vous avez le site internet mt180.fr pour voir justement les vidéos de tous les lauréats. On va les diffuser tout le long de ces semaines pour voir donc ces prestations MT180. Et puis l'ensemble est également sur le Facebook de La Tête au Carré. Vous restez avec nous, on part dans les océans du globe dans un instant.
Rest in the ball.
papier des fois.
The Blaze, c'était Heaven.
La tête au carré, le club.
Et ça discute dans le club comme on l'entend, et on plonge tout de suite dans les océans avec France 2 qui a décidé pour deux primes d'emmener les téléspectateurs demain soir dans les grands fonds marins.
Demain soir, événement.
L'océan, immense, gigantesque, un monde d'une extraordinaire richesse, peuplé de créatures surprenantes, de monstres terrifiants. Dans les mers chaudes, dans les eaux glacées des pôles, au cœur des jungles sous-marines luxuriantes, voici l'histoire merveilleuse et stupéfiante de la vie dans les océans de notre planète bleue.
Racontée par François Morel, Planète Bleue. Demain soir, retenez votre souffle sur France 2.
Voilà, premier volet, puisqu'il y aura deux primes, ça commence demain et le second, ce sera le samedi suivant, 90 minutes, donc Catherine Alvarez autour de Planète Bleue. Les baleines remplacent Patrick Sébastien, hein, demain soir.
Sans commentaire.
Non mais c'est un vrai choix. Non, c'est un vrai choix. Parce que les divertissements pas... du samedi soir, on n'a pas l'habitude.
C'est un vrai choix de différenciation du service public. C'est un vrai choix aussi, c'est une volonté aujourd'hui qu'on a à France 2 de proposer en première partie de soirée, pas seulement le samedi soir, des documentaires innovants, surprenants, qui permettent aussi au plus grand nombre de se retrouver. Et c'est vrai que le samedi soir, c'est un moment où les familles peuvent se retrouver et que ces documentaires d'histoire naturelle sont avant tout, j'insiste tout de même, c'est vrai, un grand spectacle. Donc un spectacle divertissant aussi pour le plus grand nombre. On peut échanger autour d'un documentaire animalier entre parents, enfants. Et puis on apprend plein de choses et on s'en met plein les yeux.
Ouais. Donc évidemment, quand on choisit un prime sur la nature, sur une grande chaîne de services publics, on essaye de sécuriser au maximum en faisant appel au meilleur tant qu'à faire. Et c'est le cas là, puisque ce film est issu d'une mini-série réalisée avant par la BBC et qui a fait un carton, alors non seulement sur la BBC, mais dans le monde entier, à des heures de très grande écoute.
Absolument. C'est vrai qu'on a une collaboration depuis plusieurs années déjà avec BBC, collaboration très fructueuse. On avait eu quand même en 2017 Planète Animale, on avait déjà fait un bel essai. C'est vrai que Planète Bleue, c'est avant tout une série déjà qu'il y a eu il y a 10 ans que BBC avait faite, une première Planète Bleue. Et puis la nouvelle Planète Bleue a démarré il y a 4 ans en tournage, 4 années de tournage, et ça a été une série de 7 heures. Pour BBC One, donc la première chaîne...
Ils ont battu tous les records, je crois. Hein.
Tous les records d'audience pour un programme en première partie de soirée. Donc c'est extraordinaire, ça a battu aussi des records d'audience sur la chaîne publique allemande ZDF. Donc on est plein en fait de diffuseurs publics européens et internationaux, et on se regroupe pour... Voilà, pour permettre ces grandes aventures.
Alors, Denis Audy, vous êtes en duplex avec nous depuis Marseille, dans les studios de Radio France. Vous êtes docteur en océanologie, pardon, et responsable d'océans et côtes au WWF. Et puis, vous avez aussi un parcours intéressant, puisque vous avez travaillé avec le commandant Cousteau. Donc là, on a affaire à deux styles très différents, mais au fond, le même message et la même envie de montrer les océans aux téléspectateurs.
Vous voulez parler de Cousteau et de la BBC ?
Oui, absolument, oui.
Oui, c'est absolument le même message, et ce qu'on voit dans ces films, c'est aussi la raison pour laquelle je fais ce métier. Malheureusement, le message que je vais faire passer aujourd'hui, c'est plutôt l'autre versant.
Oui, sur l'état effectivement des grands fonds marins et toutes ces publications qui s'enchaînent, qui se suivent, qui montrent effectivement qu'il y a tout lieu de s'inquiéter. Alors, ce que vous montrez, Catherine Alvarez, on va en parler évidemment avec Denis Audy dans un instant, mais ce sont un peu les deux versants, avec quand même l'esthétique, la beauté qui prime.
C'est-à-dire que c'est vrai, une grande chaîne généraliste. Donc c'est vraiment, et ça, on travaille comme ça avec la BBC, c'est d'entrer avant tout avec le spectacle de la nature, avec la beauté de la nature qu'on partage avec le plus grand nombre, mais sans toutefois du tout
passer sous silence
aujourd'hui les problèmes qui existent pour 70% quand même de la Terre. Donc c'est pour ça que de la façon dont même on a programmé, c'est démarrer en prime time avec ce grand spectacle de la nature, mais on termine quand même avec en deuxième partie de soirée avec l'avenir des océans qui là nous fait on suit des scientifiques sur le terrain. Et là, on ne mâche pas nos mots sur dans quel état sont les océans et les fonds marins aujourd'hui.
Denis Audy, entre les méthodes de filmer du commandant Cousteau et aujourd'hui ce que peut faire une chaîne, une production comme la BBC, on est dans deux mondes quand même. Hein. Les choses ont énormément évolué.
Oui, les choses ont évolué. En même temps, le commandant Cousteau est un des premiers à avoir amené beaucoup de lumière sous l'eau. C'est ce qui a fait la différence avec la plupart des autres films. Et puis d'ailleurs, il y a dans l'équipe de ceux qui ont tourné pour la BBC, Didier Noireau, que je connais bien et qui a travaillé aussi pour le commando Cousteau, et René Osé aussi que je connais. Donc il y a une continuité dans tous ces gens qui font des images absolument époustouflantes maintenant sur l'eau.
Ouais, Catherine Alvarez, malgré tout, on n'aurait pas pu faire ce film il y a 10 ans parce que les moyens n'étaient pas les mêmes. Et aujourd'hui, on essaie de filmer le plus discrètement possible, c'est-à-dire même évacuer le bruit des bulles, tout simplement, des plongeurs.
Absolument, avec les plongées en recycleur qui sont ces combinaisons qui permettent justement qu'il n'y ait aucune bulle, qu'il n'y ait aucune vibration, ce qui permet de s'approcher au plus près des créatures et des créatures marines. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui, on a aussi les caméras ultra légères. Ventouses que l'on place, c'est bien sûr totalement indolore pour l'animal, sur les animaux, pour être au plus près. Les drones aussi, ça a l'air, mais qui ont quand même totalement modifié notre façon de filmer. Et puis en plus, les submersibles qui nous ont permis d'aller quand même au plus profond des abysses de façon extraordinaire. Donc on a tous ces moyens et BBC, c'est là la force aussi, met au point à chaque fois pour ces nouvelles productions, des nouvelles techniques. Donc là, on a ce mégadôme qui permet un split screen. Qui nous permet.
Split screen, oui.
Ouais, je sais pas comment on dit ça, je suis pas très. C'est BBC, on va dire en français.
Partage d'écran.
Merci, j'ai un thésard avec nous, c'est super. et donc, qui nous permet vraiment de pouvoir. Bah, c'est extraordinaire quand il y a un iceberg, de voir au-dessus, et puis surtout la partie immergée. Donc, c'est aussi continuer à évoluer dans la façon de raconter cette beauté.
4 années de tournage, 125 expéditions, 39 pays, 6000 heures sous l'eau pour récolter des images jamais vues. Et alors, d'un point de vue scientifique, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des découvertes aussi qui ont été réalisées grâce aux équipes de filmeurs.
Pour être très exact, c'est plutôt, par exemple, je prends toujours cet exemple des labres qui au nord de l'Australie, ces poissons qui quand même utilisent un outil pour ouvrir, pour se nourrir, c'est-à-dire qu'ils utilisent un outil. Là, par exemple, c'est quelque chose, les scientifiques le savaient depuis environ les années 2000, ce qui a permis BBC, c'est de le documenter. Donc c'est quand même la première fois que c'est filmé et c'est une énorme avance. Ouais. C'est vraiment travaillé et l'équipe BBC, ce sont des réalisateurs extraordinaires, des hommes de terrain, mais ce sont avant tout aussi des biologistes au départ.
Et on voit d'ailleurs, il y a une scène, on voit un poisson attraper un oiseau. Alors moi, j'avais jamais vu ça.
C'est génial. C'est les carangues qui arrivent à bondir hors de l'eau pour manger des oisillons. C'était par exemple, ça n'avait jamais été filmé.
Denis Audy, justement, est-ce que la télévision peut apporter quelque chose à la science concrètement aujourd'hui dans les découvertes des grands fonds?
Oui, c'est sûr. C'est absolument les images, et je pense même que les images changent notre façon de considérer les animaux à bien des égards. Et vous avez parlé du drone, et c'est vrai que nous, l'été dernier, par exemple, on a utilisé pour la première fois des drones pour filmer les baleines de Méditerranée. L'objectif, c'était de pouvoir les mesurer, parce que c'est très compliqué si on n'a pas une vue aérienne. Mais on a découvert des attitudes, des choses, qui, alors qu'on les fréquente depuis très longtemps, qui ont un peu changé notre façon de comprendre comment elle se déplaçait dans l'eau. Ouais. Bien sûr, c'est très important. Et puis surtout, je dois dire aussi que souvent, l'image, c'est des moyens que n'a pas la science.
Alors justement, c'est l'occasion de voir des choses qui ne sont pas données à voir très souvent. Vous qui êtes aux premières loges, finalement, pour assister au changement qu'a connu le monde marin de ces dernières années, Denis Audy, quel constat vous faites aujourd'hui? On parlait encore aujourd'hui, tiens, dans les brèves, du problème de la barrière, de la grande barrière de corail. Quand on fait un état des lieux aujourd'hui, c'est quand même pas très réjouissant, non?
Oui, c'est vrai que c'est pas très réjouissant. Et alors moi, j'ai l'habitude de dire que pour qu'on comprenne bien le mécanisme, que nous sommes tous des habitants du littoral, qu'on soit breton, qu'on habite dans le Berry ou à Strasbourg, tout finit à la mer, même les montagnes d'ailleurs, puisque la plage sur laquelle vous mettez votre serviette l'été, c'est rien d'autre qu'une montagne qui, par le jeu de l'érosion, finit à la mer. Donc tout finit toujours à un moment donné à la mer. Et quand je dis tout, ça veut dire les plastiques, les PCB, les médicaments, les hormones et tous les pesticides qu'on utilise. Donc on est passé, ce qui me paraît très symptomatique et ce qui a un peu changé, c'est qu'on est passé d'un état d'une planète où il y avait globalement la nature et des zones polluées à une espèce d'emprise globale de l'être humain par ses impacts sur la planète bleue avec des îlots isolés que nous montre par exemple Planète Bleue. On a inversé le mécanisme et probablement qu'une des choses les plus symptomatiques, c'est la pollution par les plastiques.
Oui.
C'est une des pollutions, bien sûr, j'ai parlé des PCB, il y en a d'autres, mais celle-là, elle est symptomatique dans le sens où en moins d'une vie humaine, on est arrivé à envahir complètement la biosphère par ces plastiques, avec des quantités qui sont phénoménales. Aujourd'hui, il y a des plastiques dans le miel, il y en a dans la bière, il y en a dans l'eau des robinets, il y en a sur des îles isolées, il y en a dans l'estomac des oiseaux de mer, il y en a dans l'estomac des cétacés, il y en a partout. Et ça, en à peine 50 ans. On déverse chaque minute un camion poubelle de plastique dans la mer.
Colin Gatouya, vous aviez une question pour Catherine Alvarez.
Oui, pour revenir au documentaire et parler du plastique, on parle régulièrement de ce septième continent. Est-ce que vous savez que si dans les équipes de tournage, il y a 10 ans, sur le premier Planète Bleue et sur le nouveau, est-ce qu'ils y ont été confrontés et est-ce qu'ils en rendent compte dans le reportage qu'on verra demain soir?
Alors, Il y a des questions.
Alors, c'est le documentaire qu'on verra la semaine prochaine, donc l'avenir des océans. Absolument, le 28. Absolument, c'est ça qui est très intéressant. De même pour les coraux, c'est-à-dire qu'en 10 ans, ils ont vu le changement et même en 4 ans de tournage pour les coraux. Mmh. Et pour le plastique, notamment, il y a une séquence qui est très émouvante. On voit des albatros qui nourrissent les petits, mais ils, eux-mêmes, ayant du plastique, transmettent ce plastique à leurs petits et en meurent. Donc absolument, en 10 ans, c'est très triste.
Et on va terminer par une note réjouissante, celle avec la voix de François Morel, justement, qui participe et qui a prêté sa voix à ce documentaire Planète Bleue. On l'écoute, ça c'est un message qu'il a enregistré pour présenter la série, mais pour les réseaux sociaux.
Ouais.
Ce n'est pas faire injure aux concombres des mers que de signaler qu'il n'a pas un physique facile. Par exemple, comment vivre une vie sociale épanouie quand sa bouche est située pile à côté de son anus, qui par ailleurs est un refuge pour les petits poissons craintifs. Le poisson est un être courageux qui, même dans l'océan Arctique, ne se plaint jamais de la fraîcheur de l'eau. Il ne se mouche pas, n'éternue jamais. La mère du poisson ne lui fait jamais de réflexion déplacée du style « Où es-tu encore allé te fourrer ? Tu es trempé. »
La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais foncer les sourcils. Ses enfants, elle aime bien.
Voilà, ça c'est la patte François Morel, sa façon de présenter du documentaire pour France 2.
C'est sa patte et ça fait du bien. Et pour les familles, samedi soir, c'est aussi agréable.
Planète Bleue, demain, premier épisode. Le second, donc, samedi 28. C'est 20h50 en prime. On vous souhaite la même audience que la BBC.
Ah oui.
Avec donc ce premier volet autour des beautés de nos océans. France 2, demain. Allez, dans un instant, une expo sur le feu très intéressante à la Cité des Sciences. Et ce sera juste après Taxi Girl et Mannequin. On repart dans les années 80. La patte et le style de Taxi Girl à l'instant.
La tête au carré, le club sur France Inter.
Julia Massiel et Christelle Guiraud, vous êtes les commissaires de cette exposition Feu à la Cité des Sciences. C'est bien car le soleil commence à nous brûler lui aussi en ce moment et on va pas s'en plaindre. C'est jusqu'au 6 janvier 2019, donc on a du temps pour aller voir cette exposition. Christelle Guiraud, qui a commencé, donc vous l'expliquiez un petit peu rapidement tout à l'heure, mais il faut le resituer dans le contexte parce que l'idée c'est ça, c'est cet accident qui est arrivé à la Cité des Sciences, incendie en 2015 et au milieu donc de l'événement traumatisant d'ailleurs pour les équipes de la Cité des Sciences, cette idée qui germe de faire une expo.
Voilà, donc cet incendie s'est déclaré dans une partie du bâtiment qui était en travaux en août 2015. Et c'était donc à cause du chantier, il n'y avait pas de système d'alarme incendie. Donc l'incendie s'est développé jusqu'à déclencher côté musée le système incendie. Et donc voilà, on a subi un énorme incendie d'un quart du bâtiment qui a impacté pas mal sur nos activités. Le musée est fermé pendant cette semaine. 300 personnes ont été relocalisées dans les bureaux. Voilà. Du coup, on s'est dit, le feu, ok, il a été un peu traumatisant, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et on a instruit une idée sur l'exposition, d'une exposition sur le feu. Ça s'est avéré très intéressant. Ouais. Et à partir de janvier 2016, avec Julia, nous avons commencé à travailler à la conception et la production de cette exposition.
Et bravo, Julia Massiel. C'était quoi, une façon aussi de faire résilience par rapport à cet événement un peu traumatisant quand même pour les équipes?
Oui, oui. Et puis il y avait une exposition en même temps qui d'ailleurs est toujours programmée sur le froid. Ouais, donc ça faisait le pendant aussi. Et puis on s'est dit que peut-être qu'il y avait de quoi creuser. On a découvert vraiment un sujet extrêmement riche et on a voulu le traiter de façon large, donc on parle d'anthropologie, de la symbolique du feu, de la physique chimie, de l'ingénierie, de l'incendie. Donc voilà, c'est ça qui nous a intéressé, c'est ce côté très pluridisciplinaire.
Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'expositions originales à la Cité des Sciences ou est-ce que vous faites beaucoup appel, comme France 2 à la BBC par exemple, de choses qui existent déjà et que vous remontez pour le public français?
Donc on conçoit beaucoup de nos expositions, parfois on en accueille, mais on est concepteur de la plupart de nos expositions, qu'on fait itinérer aussi.
C'est ça, puisqu'après donc elle va partir dans d'autres musées, dans d'autres
Cités
des Sciences. Oui, c'est ça. Ça dépendra du succès aussi, comment ça se passe dans ces cas-là.
Oui, et puis c'est le fait de voir l'exposition présente et comment la réception du public qui aide aussi à la faire voyager. C'est-à-dire sur le papier, une exposition sur le papier, ce n'est pas tout à fait une exposition en vrai.
C'est ça. Combien de temps vous avez en général, Christelle Guiraud, pour fabriquer de toutes pièces une exposition, pour en explorer tous les thèmes et tous les sujets, pour faire appel aux scientifiques, pour construire la scénographie, les décors, tout ce qu'on va pouvoir voir?
Eh bien, on a 2 ans environ. 2 ans, c'est assez confortable. On peut le faire en 1 an et demi, mais là, c'est très très dur pour nous.
Ah oui.
Bon, 2 ans, ça paraît long, mais en fait, avec nos contraintes d'établissement public, d'appel d'offres, etc., c'est le temps qu'il faut. Et puis, ces 2 ans, ils se construisent en 3 phases. Une phase où on va travailler et construire le programme d'exposition. Ensuite, une phase où on commence à appeler, à travailler avec nous, les scénographes, les designers, nos collègues concepteurs multimédia et producteurs audiovisuels. Et la dernière phase est la phase de production.
Ouais. Et là, vous étiez dans les temps, tout s'est bien passé?
Eh bien, on est toujours dans les temps, puisqu'on a des dates d'ouverture, il faut ouvrir une expo, donc je ne vous cache pas que...
Ça sent toujours la peinture fraîche, en général.
2-3 mois avant, c'est un peu intense.
C'est ça.
On est très nombreux, à la fin, Julien et moi, on gère une équipe assez importante au sein du musée et avec les prestataires extérieurs, de plus de 50 personnes. Ça ressemble un peu à la production des films, parfois, parce qu'on gère beaucoup de compétences et de personnes très variées. Et donc, voilà, on a ouvert une exposition qui, je crois, plaît.
Alors, Julia Massiel, on ne parle pas que d'incendie dans cette exposition sur le feu. Ce sont vraiment tous les aspects qui sont liés à ce thème.
Alors, le thème de l'exposition, en fait, c'est la maîtrise du feu. C'est le rapport ambivalent que l'homme entretient avec le feu.
Pourquoi ambivalent?
Ambivalent parce qu'il est à la fois ennemi et ami. Il est à la fois symbole de chaleur, de convivialité, mais aussi de destruction. Il est aussi symbole d'archaïsme et de modernité. Donc, tout au long de l'exposition, on se rend compte que le feu, et on a un rapport vraiment central. Il est vraiment central dans nos vies et c'est pas un rapport simple.
Ben évidemment. Alors, vous êtes parti du tout départ sur la façon dont les premiers hommes ont réussi à maîtriser le feu?
Alors effectivement, c'est un sujet qu'on traite, donc la découverte du feu par les hommes préhistoriques. On a découvert quelque chose de très intéressant, c'est que ce qui est très important dans l'histoire de l'homme, c'est le passage de la non-utilisation du feu à l'utilisation du feu, plus que de savoir allumer du feu avec, par exemple, un forêt à main ou un silex et une pierre qui contient du fer.
Est-ce qu'on arrive à le dater d'ailleurs, ça, aujourd'hui, ce premier moment, cette première étincelle, parce qu'on n'en a pas la preuve archéologique?
Alors, l'allumage du feu, non, parce qu'en fait, la méthode la plus Certaines, a priori, c'était avec du bois, et le bois, c'est pas conservé.
Ouais.
Donc, on a des traces, mais qui sont très anciennes, comparées aux traces des foyers préhistoriques où on voit un usage avéré qui, là, nous donne la date de 400 000 ans environ.
Mais c'est très large.
On trouve des foyers partout dans le monde. Ouais, donc, on sait qu'à 400 000 ans, l'homme a utilisé
pour sûr,
le feu.
Pour sûr. Mais il a dû probablement, évidemment, faire des essais bien avant, et les dates fluctuent énormément.
Effectivement, on a des preuves avant, mais on n'est pas sûr que c'était une utilisation systématique.
Ça a complètement bouleversé la vie des hommes, évidemment, le fait de passer au feu et d'en avoir à disposition.
Alors, il y a des apports qui sont des apports évidents et immédiats, comme l'éclairage, le chauffage, la cuisson.
La cuisson, oui.
Mais on se rend compte aussi que ça a eu des impacts très importants au niveau de l'organisation même du groupe, de la communication du groupe et du développement du langage et de l'imaginaire.
Bien sûr. Oui. Alors, il y a tout un aspect aussi autour de la science de l'incendie, hein, on y revient, mais parce que c'est aussi très très intéressant. Et puis, ces incendies ont marqué l'histoire des hommes, certains vraiment qui ont été absolument traumatisants. Rome, par exemple, en l'an 64, Londres en 1666, et tous ces événements, vous y revenez aussi. Hein.
Oui, on a un élément sur les incendies historiques et qui nous permet de montrer qu'on a appris des choses de ces grands incendies et on a appris à lutter différemment ou à reconstruire nos villes différemment avec d'autres matériaux, en construisant des rues plus larges. Et puis aussi, par exemple, pour Londres, c'est la naissance des assurances.
Oui. Absolument.
Donc, des conséquences auxquelles on ne pense
pas. Oui, bien sûr. Christelle Guiraud, est-ce que vous fabriquez du feu devant le public de la Cité des Sciences ou vous évitez de reproduire de malheureux souvenirs?
Dans un établissement public, nous n'avons pas le droit de faire même une toute petite flamme. Mais donc, nous, dans l'exposition, il n'y a pas de flamme véritable. Par contre, il y a une scénographie qui met en ambiance. Donc, il y a des odeurs, il y a du son, il y a des images, il y a des voiles. Il y a plein de choses qui sont présentes et qui mettent en branle les sens.
Et pour voir à quel point le feu se répand très très vite aussi. Hein.
Voilà, et nos animateurs proposent des ateliers où là, les participants vont pouvoir s'amuser à essayer de faire du feu comme le faisaient les hommes préhistoriques.
C'est ça.
Et nous avons aussi des propositions de nos partenaires qui permettent aux visiteurs d'être en proie avec le feu, de voir comment il se développe, comment réagir, les gestes à...
C'est donc cette exposition à voir en ce moment et c'est à la Cité des Sciences jusqu'au mois de janvier prochain avec également ce livre Feu, ami ou ennemi qui sort aux éditions Duno. Merci beaucoup à tous d'être venus dans ce club. Merci, bon courage à nos candidats, nos deux premiers finalistes de ma thèse en 180 secondes et puis on vous retrouve à Toulouse donc le 13 juin prochain. Et puis pour terminer cette émission, je voudrais chaleureusement remercier Anna Massardier, notre stagiaire qui nous quitte après 2 mois. Anna, elle est là derrière la vitre. On t'embrasse très fort. Merci beaucoup, t'as fait un boulot impeccable. Tu vas nous manquer et tu vas revenir, j'en suis sûr, très bientôt. Bon week-end à tous, bonnes vacances. La semaine prochaine, c'est Daniel Fievé aux commandes de l'émission.